Midi Martini.
Milieu de la semaine, hump day, diraient les Anglos. Nous, on dirait peut-être jour de dos d'âne, je sais pas trop. Mais c'est pour dire que si on monte, ben là, on commence à redescendre vers le week-end qu'on nous annonce beau. Et quand les pronostics sont positifs, on les regarde et on en tient compte, même si c'est loin. Si jamais c'est moins favorable, on dit que ça a le temps de changer. Alors, finalement, si la vie était toujours comme ça, ça se passerait bien. Jean-Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes encore là, vous qui êtes là depuis 9h ce matin?
Il semblerait que oui.
Ben, ça achève. Non, mais c'est vrai.
On n'est pas pressé.
Bonjour, Sophie.
Bonjour, Luc.
Madame Sophie qui va nous parler aujourd'hui de d'ornithologie et de classement, parce que je vous ai mis sur la piste la dernière fois.
Sujet qui va peut-être être un petit peu plus ardu, mais je suis là pour vulgariser.
OK. Ben, c'est votre tâche. Ouais. Alors, on empruntera la trail avec vous. Et Nathalie, qui revient d'Abitibi, elle continue à nous amener au gré de ses expressions. Aujourd'hui, elle choisit la piste des vacances.
Eh oui, je poursuis les vacances et elle, la route.
Elle qui revient d'Abitibi va sûrement être fière. C'est le cas. Ben, Jean-Sébastien est plus timide là-dessus, mais je pense qu'elle va être contente de dire à Samiane, qui vient un petit peu plus tard, que « Ah, ben, je suis pas trop loin de Picogen, moi non plus. » Puis, Samiane, qui, dans le cadre de Présence autochtone demain, fait connaître et rend public son album, album que vous pouvez déjà entendre sur Ici Musique jusqu'à demain et que vous pouvez acheter à partir du 5 août. Nathalie, vous avez pas eu le temps, vous, de lire l'article, hein?
Ben non, j'ai pas eu le temps. Je vais tenter de m'immiscer ici et là, si le propos est pertinent de ma part, bien sûr.
Ben ça, ce sera à nous d'en juger, mais... Sentez-vous quand même très à l'aise de nous dire ce que vous pensez des pompiers qui, comme ça, décorent leur camion d'autocollants en marge de cette loi qui veut modifier les régimes de retraite de la fonction publique et la Ville de Montréal qui dépense pour retirer les autocollants. Les pompiers, en fait, le syndicat qui dit c'est un peu gnochon, puisque de toute façon, on va en apposer d'autres une fois que les camions seront nettoyés. Donc, pourquoi dépenser des sommes inutiles? La ville dit c'est important, c'est une question de principe. Les citoyens ont le droit d'avoir une certaine fierté et pas que ça a l'air de ce que ça a l'air présentement. Et finalement, c'est une guerre d'autocollants. Les policiers, semble-t-il, font sensiblement la même chose. On dit qu'on va refiler la facture aux syndicats. Est-ce que les syndicats, ensuite, vont aller en cours pour dire « La loi, les mesures essentielles nous ont donné le droit, donc on n'a pas à payer ça. Ça risque de payer ou coûter des avocats. » Enfin, bref, c'est nono. Mais ça coûte des sous. Qu'est-ce qu'on pense de ça, là? Parce que à cause des services essentiels, ils n'ont pas beaucoup de façons de faire connaître leur doléance, que ce soit les pompiers, les policiers. D'un autre côté, c'est vrai que de mettre des autocollants, ça change pas nécessairement notre perception. On n'aime pas dépenser. J'ai l'impression que c'est un perdant-perdant, cette guéguerre-là.
Perdant, je ne sais trop. Déjà, je m'immisce. Hein? Déjà,
ben
je prends la parole, ça va bien.
Ouais.
Hein? Donc, dès qu'il y a revendication, je suis là.
Bien, on vous reconnaît, Nathalie.
Quand même. Alors, ce que je me rends compte, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir revendiquer. Ils n'ont pas la possibilité d'arrêter leur travail non plus. C'est un service essentiel.
Ouais.
Donc, la seule façon, c'est d'être visible. Et être visible comment? Donc, l'autocollant le permet. Ça peut s'enlever à la fin des revendications. Ils ont juste à négocier plus rapidement. Non, mais là,
je souris.
Oui, je vais un peu vite là sur...
En fait, vous avez fait les coins ronds. C'est pas que vous
oui,
allez vite.
Oui, c'est
mais...
ça. Mais ouais. Oui, je fais les coins ronds. J'y vais de mon côté démagogue certaines fois. Alors, c'est le cas un peu ici. Mais en fait, le nerf de la guerre, c'est de pouvoir discuter puis c'est de pouvoir jouer sur cet argent-là que l'on devrait recevoir au régime de retraite. Donc, de ne pas jouer dans cet argent-là qu'on a investi, qu'on a négocié, qui fut négocié, jadis. Et là, on va piger là-dedans. Donc, et moi, je vois l'ensemble, je suis peut-être un petit peu paranoïaque certaines fois, donc je vois le reste de la population, du public, parapublic, avoir le même la même situation, recevant la même réponse du gouvernement, la même réponse des villes ou autres, donc de leurs employeurs, que votre régime de retraite, finalement, vous l'avez bien eu, mais vous ne l'aurez plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là? Et toutes les sommes qu'on va dépenser pour nettoyer les... ou remettre à neuf, d'une certaine façon, le mobilier, ouais, comme ils le disent, le mobilier de la ville. Donc, c'est de l'argent qu'on n'aura pas pour mettre dans les régimes de retraite et on pourrait déjà s'entendre sur certaines choses. Mais bon.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être un petit peu plus de réticence que Nathalie ou ont fait écho à ce qu'on vient d'entendre?
Non, moi, j'ai vraiment l'impression d'être au milieu d'une chicane de cours d'école. Là. C'est pas sur la partie des revendications, mais simplement sur la partie des autocollants du « on nettoie, puis ben on va remettre des collants, puis ben on va nettoyer si vous remettez des collants, ben on va remettre d'autres collants après ça ». Je trouve que c'est inutile, cette chicane-là. Là. C'est
un peu comme les graffitis.
Absolument. C'est...
Ah oui, si on nettoie, ça va être remis ensuite, ouais, oui.
Ouais. Ben, moi, ce qui m'inquiète, M. Fortin, c'est en fait, quand j'ai lu l'article... On disait que pendant le nettoyage, certains camions pouvaient devenir hors service. Mm-hmm. Alors, est-ce que là, la sécurité, notre sécurité, en fin de compte, est mise en jeu? C'est ma question.
C'est ce que le syndicat veut que vous craigniez, en tout cas, puisque c'est le syndicat qui a avancé. La ville, elle, dit on n'utilise que le nettoyage sur 10 camions à la fois en laissant 20 de disponibles. Mais c'est vrai que, bon, si à un moment donné, il y en avait 25 de nécessaires à cause d'un méga problème, on aurait un problème. Vous avez raison. Mais la ville nous dit qu'il n'y a pas de crainte à y avoir et le syndicat, eux, veulent nous dire qu'on est mal desservi à cause de cette mesure de nettoyage-là. Je pense que... Pour des raisons différentes, je me rallie à Nathalie, pour ma part, à savoir que ce n'est pas nécessairement à cause d'un moyen de faire connaître ses positions, mais bien parce que si effectivement la loi des mesures essentielles et ceux qui la régissent ont donné le droit, ben finalement, ça ne donne rien des enlever. Donc, j'aimerais autant qu'on investisse ailleurs et c'est peut-être parce que je suis aveugle, mais j'ai pas de problème à penser qu'il y ait des autocollants sur les camions ou les voitures de police.
Tant Est-ce qu'on que ça vous dérange?
Ben, c'est ça, oui. Oui, c'est
et
ça.
Tant
si qu'ils on la bouge
à l'endroit
pas,
où
là,
ils veulent.
Me semble. Si par contre, c'était pas utile et qu'il pouvait y avoir des sanctions, ben là, ce serait autre chose. Mais si c'est pour être continuel, ben, aussi bien arrêté, là. Mais je pense que, contrairement à ce que vous dites, Nathalie, il n'y a pas grand monde qui prend le temps de lire l'autocollant pour se positionner ou se demander si les revendications sont justes ou non. C'est plus lorsqu'on entend des entrevues avec les chefs syndicaux ou...
Ben, je suis peut-être de celles qui les regardent.
Qui regardaient les
oui,
autocollants.
C'est peut-être ma formation aussi, je lis tout. Donc, je regarde sur le véhicule, ah, qu'est-ce qui est inscrit, puis pourquoi, puis je questionne. J'aimerais que la population soit ainsi. Donc, qu'elle aussi questionne, regarde, observe et questionne et puisse être allumée. Puis c'est une façon d'éveiller les consciences aussi que de le faire de cette façon-là, à mon humble avis.
Ouais.
C'est pour attirer l'attention, finalement. Puis pour attirer l'attention sur quelles questions, sur, justement, les problèmes de budget, de fonds auxquels on fait face présentement. Et puis, moi, je comprends un peu les deux parties. Mais en même temps, comme vous le dites, Nathalie, l'entente a été prise au début. Alors, oui, on manque d'argent, mais si on signe des ententes, puis qu'en bout de ligne, on sait que ces ententes-là ne seront plus respectées, alors... Où est-ce qu'on s'en va?
Ben c'est ça, on risque de créer un précédent.
Exactement.
S'il y a cette loi-là, effectivement, qu'est-ce qui va nous pendre au bout du nez par la suite? En tout cas, c'est pas... J'avoue, c'est un peu au-dessus de ma tête. J'ai de la difficulté à comprendre tous les chiffres. Je comprends le principe de dire on n'y arrive pas et si... Il y a tellement de municipalités qui semblent dire la même chose que tu te dis à un moment donné, oh, il y a peut-être un véritable problème. Il y a peut-être des gens qui ont négocié la paix dans le passé sans réfléchir, juste pour avoir le vote en pelletant le problème en avant. parce qu'on le sait, hein, on gère 4 ans à la fois. Et il y en a qui sont pris avec le problème. Par contre, il y en a d'autres qui, eux, ont investi pour une vie. Et on peut comprendre que quand les règles changent, il y a des craintes.
Bien, forcément qu'il y aura des craintes. Mais c'est vrai, l'idée de qu'on pète en avant, ça peut être représentatif de toute notre société dans tous les paliers gouvernementaux aussi, puis qu'on n'a pas réfléchi vraiment à la situation de part et d'autre. C'est possible que ce soit lié à ça. Mais il y a également le fait de se dire, mais si on signe une entente, respectons-la, essayons d'aller voir ensemble s'il y a modification, qu'on puisse le voir ensemble et non pas imposer ouais. quelque chose ouais. et pouvoir refaire le tout. Et quand on voit... tout l'argent qui était dilapidé pour des fins plus ou moins honnêtes. Donc, et qu'on voit les dépenses qui ont été faites, pas nécessairement pour la population, pas nécessairement pour la ville. Donc, ça nous choque aussi donc, de voir cette situation-là puis de dire, bien, on va prendre l'argent de la retraite de ces gens-là. Donc, on va le leur retirer. Puis, on en a pris dans différentes enveloppes pour se garnir les poches. Donc, là aussi, c'est dérangeant, c'est déstabilisant parce que ces gens-là ont travaillé de façon... Certains ont travaillé de façon honnête, ou la majorité d'entre eux, et ne retireront pas les fruits et les bénéfices de tout ce travail-là, alors que d'autres ne l'auront pas fait, puis ils vont en avoir les bénéfices. Et c'est ça qui est un petit peu enrageant derrière tout ça.
Quand on pense, ça me fait justement penser au maire intérimaire qui a été là très peu de temps. Je ne sais pas à quel point c'était vrai ou faux, mais l'article que j'avais lu, c'était, après arrestation et tout de Michael Applebaum, il y avait eu quand même une prime de départ de, je pense, 200 quelques milliers de dollars.
Ouais.
On se dit, mais voyons donc. En plus qu'il avait été arrêté. Alors là, c'est tout à fait un bon point que vous apportez, Nathalie.
Donc, la morale de cette histoire, c'est les gentils finissent derniers.
Oh non!
Non!
Faut renverser la vapeur, s'il vous plaît.
Les derniers sont les premiers.
Qui a chanté ça?
Mais Céline!
Ah oui, c'est vrai, avec un texte de Goldman. On écoute Bia qui nous chante les vacances et ensuite, on va parcourir le langage des vacances avec Nathalie.
Sont après s'amuser. Allez pas trop loin, vous pouvez vous noyer. Je vous dis, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances, ceux qui sont arrivés. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année. Dimanche passé, je suis allée me baigner. À la rivière des prairies, y'a beaucoup de dangers. Et dans le fond de l'eau, y'a de la vitre cassée. J'ai l'orteil coupé et puis l'autre déraché. Tout le monde était là qui se tordait de voir ça. Personne n'a voulu venir pour mieux secourir. Y'avait un gros chien qui pataugeait dans l'eau. Je l'ai poigné par la patte et j'ai embarqué sur le dos. Je vous dis, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances, ceux qui sont arrivés. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année. Sur le bord de la grève, le chien s'est mis à japper. La peur m'a pris, puis je me suis sauvée. Le chien enragé a couru après moi, m'a pogné par la couette et l'a tout arraché. Rendu à la maison, mon chéri m'attendait. Il voulait aller à la pêche au brochet. Mais toute la veillée, il a pogné des mémés. Moi, ça a bien mordu, j'ai pogné de la morue. Je vous dis, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances, ceux qui sont arrivés. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année. Les enfants étaient là quand on est arrivé. Le prix les menés, puis je vous dis, sont sauvés. Au parc La Fontaine, ils ont été les portés. Si vous voulez les voir, ils sont après nager. Cette jeune maman que je m'adresse maintenant, faites attention, veillez sur vos enfants. Espérant qu'à l'automne, ils vont être posés. Car au mois de septembre, les classes vont recommencer. Je dis, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances, ceux qui sont arrivés. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Faut tout oublier les fatigues de l'année. Je vous dis, chers parents, qu'on est tous contents.
les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année. Le petit chaperon connaît tout ce qu'on t'aime. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année.
Il faut vraiment le savoir que c'est une pièce de la Bolduc, parce que vraiment, ils l'ont remaniée à leur façon, et si on ne connaît pas le répertoire, on ne sait pas que Bia vient de chanter la Bolduc. C'est, mon Dieu, la colline, là, les petits chiens de laine, puis toute la collection, la montagne. Personne qui peut m'aider, là?
Aucunement.
Et non.
OK, mais en tout cas, c'est cette collection-là, jeunesse, puis le titre, c'est « J'ai un bouton au bout de la langue ».
Ah, la montagne secrète,
bon,
non?
Bon, merci.
Est-ce que ça se pourrait?
Ben oui, c'est ça. Avec les petits livres, là.
Ouais, est-ce que ça se pourrait?
Je vous attendais, puis...
Ben, je cherche.
Okay. Mais non, vous l'avez eu, c'est ça. Bon, mais puisque vous avez pris la parole, gardez-la donc.
Ah ben...
On a parlé d'été la dernière fois. Là, on parle de vacances et d'expressions s'y rattachant. Certaines, juste pour nous rappeler qu'on l'utilise, à bon ou mauvais escient. D'autres que vous allez peut-être... avec lesquelles vous allez nous surprendre.
Oui.
Tiens, comme, je sais pas, prendre la poudre d'escampette.
Oui, parce que l'été, on se dit, bon, c'est les vacances, on va prendre la poudre d'escampette, on veut partir le plus rapidement possible.
D'ailleurs, donc, qu'est-ce que l'escampette?
L'escampette, ben, ça vient en fait de escampe, du verbe escamper. Escamper qui voulait dire fuir.
Donc,
plutôt que camper, s'installer, donc escamper, donc fuir.
OK.
Est apparu au 14e siècle environ. Je me suis amusée un petit peu. Donc, et prendre la poudre d'escampette, en fait, c'est s'enfuir à toutes jambes, filer. Donc, c'est ce qu'on a envie de faire quand on veut prendre les vacances.
Ouais.
Puis, cette expression-là est arrivée au cours du 17e siècle. Puis, nous ramener les images un peu du canon aussi du 17e siècle, donc se défendre avec le canon. La poudre, effectivement, qui jaillit du canon, qui fait une espèce de poussière... Donc, oui, qui peut nous rappeler aussi la course rapide. Donc, on avait la poussière derrière soi quand on court, comme dans les petits films d'animation, là, quand on les voit courir rapidement, on voit la poussière.
Ouais.
Donc, c'est un peu cette image-là. Donc, on va retrouver, donc, soulever cette poussière-là qui est soulevée autant par la poussière du canon que la rapidité qu'on a.
Sophie, je sais que vous êtes... en tout cas, je vous perçois comme une entreprenante dans le sens, là, on part. Et je me demandais si vous faisiez, quand vous étiez plus jeune, du stop ou du pouce?
En fait, je faisais du pouce.
OK.
Oui, une expression typiquement québécoise, en fait, ça vient d'ici.
Mais le stop, n'est-ce pas plutôt un terme européen, autostop, stop?
Mais oui, c'est la même chose.
Oui, mais je pense qu'ici, on dit plus faire du pouce que faire du stop.
Ouais.
Exactement.
Est-ce qu'il y en a une qui est bonne, Nathalie?
Eh bien, en fait, l'expression « faire du pouce », c'est une expression canadianisme. Donc, c'est une expression qu'on a développée ici, donc qui s'applique ici surtout. Donc, alors qu'en Europe, on va parler de l'autostop ou faire du stop. Donc, on va utiliser cette expression-là surtout, donc qui vient de l'anglais, bien entendu.
Ouais.
Puis, qui vient aussi d'un dérivé du hitchhiking, donc de faire cette balade, parcourir les routes, donc en hélant les voitures pour qu'elles s'arrêtent, pour nous déplacer d'un point à un autre.
Justement, faire du pouce, je peux comprendre l'usage de faire parce que c'est vrai qu'il y a une action. C'est long. On étire le bras, on fait signe. Mais faire de la route, normalement, on est assis sur une banquette et on regarde les lignes continues ou coupées. Est-ce qu'on fait de la route?
Est-ce qu'on fait de la route? L'expression se dit, donc faire de la route, c'est
ça,
faire
c'est
du
clair
chemin.
Que ça se dit,
mais... Oui, ça se dit, ça s'écrit, c'est là, c'est convenu aussi dans les dictionnaires. Donc, c'est l'idée de faire du chemin, donc d'avancer. Donc, soit... À l'époque, on le faisait à la marche. Donc, on disait faire de la route, faire du chemin, en fait. Donc, on faisait du chemin, donc on marchait le chemin. Et en cours de route, on l'utilisait aussi pour la voiture. Donc, faire de la route, faire du chemin. Alors que faire la route, si on enlève la particule, le « de », donc ne faire la route, c'est partir à l'aventure.
Ah!
Donc, partir à l'aventure.
Okay.
Et là, l'idée de partir à l'aventure... vivement, donc prendre la poudre d'escampette.
Ouais.
Donc, ou encore, on en est venu au cours des années 70, donc ça a été accepté en 1972, l'expression « routard ». Donc, le nom « routard », donc le routard ou la routarde, donc celle qui parcourt les routes, donc qui va partir à l'aventure et qui va sillonner les routes. De là, le guide du routard par la suite.
Oui, puis une femme qui reste à Dijon, puis qui fait ça, c'est une routarde de Dijon. C'est quand même. C'est parce que vous disiez que faire la route, c'est partir à l'aventure, puis je me disais que faire le trottoir, c'est donner peut-être le sentiment de vivre une aventure à quelqu'un. Mais moyennant quelques dollars.
Moyennant quelques dollars, effectivement, ça pourrait être ça. Mais ce qui est drôle de l'idée de faire le trottoir, on parlait aussi de battre le pavé. Donc, certaines fois, on pensait que battre le pavé, c'était rattaché à la prostitution. Mais en fait, c'est de flâner dans les rues, flâner sur le trottoir, tout simplement. Oh. Mais on peut parler, par contre, d'une expression en argot. Cependant, on va peut-être penser à arpenter l'asphalte. Donc, on dévie un petit peu du pavé, être sur l'asphalte, sur le bitume. Donc, arpenter l'asphalte qui va être de flâner sur les trottoirs, se balader. Et par extension, dans l'argot familier, on va dire une asphalteuse d'une prostituée.
OK.
Donc, sympathique, n'est-ce pas? Donc, partir de cette...
J'aime mieux ça que péripatéticienne.
Ça fait un petit peu plus terre-à-terre, mettons.
Ça fait urbain. Asphalteuse.
Oui,
ça fait moderne,
avec tous les nids de poules qu'on a,
y a
asphalteuse.
C'est ça qu'elle reste sur le trottoir. Avaler des kilomètres. Est-ce que c'est juste une image poétique ou vraiment
on peut
avaler des kilomètres?
On parlait de manger des kilomètres, de bouffer des kilomètres en Europe. Donc, on parlait de cette expression-là. Ici, on va peut-être davantage utiliser avaler les kilomètres, mais en fait, c'est pas tant d'en faire beaucoup que de rouler à vive allure.
Ah.
En fait, moi, je croyais vraiment avaler des kilomètres, c'est que t'en avales, c'est que t'en manges, c'est que t'en bouffes, c'est que... Tu vas en faire beaucoup, mais en fait, c'est de rouler à vive allure. Donc, on s'en va rapidement d'un endroit où on les avale, ces kilomètres-là. On ne prend même pas le temps de les manger, là. Donc, on est parti, c'est à vive allure. Nous sommes rendus...
Est-ce que vous avez avalé les kilomètres en allant en Abitibi?
Pas trop, parce qu'il y a de la police et il y a énormément de chantiers de construction qui nous interrompent sur la route. Donc, on y va peut-être à pas de tortue,
certaines
fois.
Donc, ce n'est pas parce qu'elle aime suivre les règles, mais parce qu'il y avait de la police et des chantiers de construction.
Elle a mâchouillé les kilomètres.
Ouais.
C'est comme on mâchouille les crayons aussi quand on cherche nos idées.
Est-ce qu'on est rendu à camping ou vous voulez
parler
de...
Ah
bien
oui, mais c'est sûr que si on part de la route, oui, on peut y aller sur cette idée-là. Donc de camper, parce que quand on part à l'aventure...
Là, vous avez camping, roulotte, caravane, tente.
Oui.
Et tiens, belle étoile.
Oui, parce que je suis partie de différentes expressions. On me disait, camping... Est-ce qu'on n'aurait pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres termes qu'on pourrait utiliser? Puis quand on va en camping, est-ce qu'on y va nécessairement avec une tente ou c'est avec une roulotte ou c'est avec une caravane?
Une fifouille.
Une fifouille, donc très grosse, ça prend un bon véhicule pour pouvoir la transporter. Donc le camping, en fait, c'est une exception, c'est un terme anglais, donc qui origine à peu près du début du 20e siècle, puis qui est assez contesté par les puristes de la langue. Donc on aurait préféré campement ou campisme plutôt que camping, mais l'usage a fait en sorte qu'on n'a pas utilisé ces termes-là très souvent et on préfère le terme camping.
On en déplaise. Mais campement, hein?
Oui.
Mais pourtant, campement, c'est plutôt un étalage de tentes ou de roulottes ou dans notre façon de voir.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais le camping va représenter tout ça. Donc, par extension, camping va être aussi le terrain où l'on campe. Donc, on a le camping, faire du camping, donc aller camper quelque part, donc aller se placer quelque part.
Ouais.
Donc, c'est cette idée-là. Donc, de là, l'idée de campement qui aurait pu être acceptée. Et campisme, c'est de faire l'action d'aller en camping, en quelque sorte.
Oui. J'aime ça, le campisme.
Oui, mais ça n'a pas passé jusqu'à ce jour. Ça n'a pas passé, malheureusement. Okay. La même chose pour caravaning, donc, qui est parti du terme caravane. Donc, on appelle camping caravaning, donc souvent, donc ceux qui voyagent en caravane. Donc, c'est à partir des années 50, surtout, qu'on a utilisé ces expressions-là ici, sur notre territoire, à partir du moment où
c'est répandu, le caravaning?
Oui, on a même des revues qui...
Ça fait tellement français, mal adapté.
Oui, on a même des revues de camping caravaning, donc qui nous exposent comment camper, quelle roulotte trouver, quelle caravane trouver pour pouvoir se déplacer.
Est-ce qu'ils ont sorti un équivalent français du caravaning à la sauce de campisme?
Non, curieusement. Donc, je pense qu'ils ont fait l'utilisation du camping, puis instanté, puis caravaning, ils ont dit « Oh, laisse faire ».
Une fois qu'ils en ont perdu une, ils ont décidé « On se bat pas pour
l'autre ».
C'est
sage.
Je ne sais trop, mais souvent, les expressions arrivent de France et souvent, on est... prêt à emprunter vraiment l'anglais à ce moment-là.
Allez-vous nous surprendre avec tente ou...
Mais avec la tente, j'ai trouvé des petites expressions donc qui me fascinaient parce qu'on parle de monter notre tente. Puis là, je cherchais à monter sa tente parce que, bon, mettre les poteaux, installer. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça le fait. Mais j'ai vu monter comme une tente. Puis là, j'ai dit monter comme une tente, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Puis être monté comme une tente, c'est avoir l'air d'un gaillard, mais être fragile. Donc, avoir cette allure frêle, fragile, malgré une charpente robuste. Mm-hmm. Donc,
là, on parle toujours de T-E-N-T-E, là. Oui, pas T-E. T-A.
Non, non, toujours le T-E, effectivement. Oui, donc, on imagine la tente avec les poteaux qui sont solides, mais la toile qui bat au vent, donc, qui peut se déchirer.
Mm-hmm. Donc, ouais, qui bon va rappeler vent, la tente, cette image-là?
Oui,
va prendre le bord.
Donc, si on va à Gaspé ou à Percé avec le vent qui vient. Oui. Donc, ça risque d'arriver. Donc, je trouvais ça intéressant de voir cette idée-là. Mais l'expression, le mot « tente » est tout le temps employé dans les camps militaires. Donc, quand on dressait la tente pour installer le campement, finalement, des militaires, qui utilisait en termes de marine aussi. Donc, la toile tendue sur une partie du navire. Donc, on va appeler la tente aussi.
La toile tendue sur le mât du navire est une tente?
Toile tendue sur une partie du navire quand on va tendre la toile pour se protéger d'une bourrasque ou qu'on va se protéger, protéger une partie. Donc, il va être la tente.
OK.
Ouais.
Différence entre une grosse tente puis un bivouac?
Une grosse tente puis un bivouac. Ouais. Donc, le bivouac, quand on va parler de ça, ça vient en fait de la garde que l'on montait. Donc, on allait s'installer sur un territoire, on allait faire le campement, justement. Mm-hmm. Donc, et bivouaquer, c'est l'idée de faire ce campement-là, mais c'est aussi d'assurer la surveillance pendant la nuit. Donc, dans ce cas-là. Ah, oui. Donc, de veiller toute la nuit à cette surveillance-là, parce que ça vient du terme bivouaquer, en fait, vient du terme bivacht. Donc, je ne sais pas si je le prononce très bien en allemand. Donc, bivacht. J'imagine. Donc, j'essaie, mais j'y arrive pas. Et en néerlandais, il y a une petite déviation. Donc, on a le « bivouach » qu'on va avoir à la toute fin. Donc, il veut dire « auprès de la garde ». Donc, c'est d'être auprès de la garde que ça représentait. Alors que moi, tout enfant, je me disais que le bivouac, ça devait être un méchant banquet. Donc, on allait se gaver. Mais non, c'était pas ça. Quand j'ai lu dans le dictionnaire que bivouac n'était pas ça, c'était un campement de militaires qui, en fait, bivouaquer par la suite est devenu, bon, le campement. Donc, quand on va s'installer quelque part, on va bivouaquer, donc camper à la Belle Étoile. Donc, souvent, c'est en plein air.
Parce que, sans penser que c'était un banquet, moi, je croyais que c'était une grosse tente. Une grosse, grosse tente. Avec, disons, 6-7 soldats dedans, mais vous me dites que non, c'est le campement au complet.
Oui, c'est ça, puis d'assurer la garde autour de ce campement-là.
Oui, c'est tellement plus simple quand on dort à la Belle Étoile. Pas de tente, pas de bivouac, pas de caravane, on ne peut pas se tromper.
Est-ce que nos bûcherons anciennement bivouaquaient ou avaient un campement? Quelle était la meilleure expression?
On parlait souvent de camp, donc de camper, juste un camp.
Oui, oui.
Donc,
on s'en va au
camp. Donc,
ça, c'est pas d'eau courante, pas d'électricité.
Oui, c'est ça, pas d'eau courante à la dure un petit peu.
Ouais.
Mais moi, j'appelle ça un shack.
Ça aussi.
Oui, le shack aussi pouvait être le shack en bois rond dont on parlait, donc qui revient aussi à ce même temps-là, oui.
La Belle Étoile, il y a quelque chose rattaché à cela ou...
Bien, passer la nuit dehors, à la Belle Étoile. Puis ce que je trouvais intéressant, on pouvait dire loger à l'auberge de la Belle Étoile. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de dire je vais dormir à la Belle Étoile, mais je vais loger à l'auberge de la Belle Étoile.
C'est poétique.
Donc, c'est ça.
D'ailleurs, il y a sûrement quelqu'un, un aubergiste qui a repris l'expression pour nommer son auberge comme ça.
Sûrement, mais je n'ai pas fait le décompte de tout ça. Si par hasard, ça pouvait exister sur notre territoire.
Ouais.
Mais j'aurais dû, hein, ça aurait été intéressant d'aller faire cette recherche-là.
Jean-Sébastien va le faire.
Mais il me semble que c'est plutôt rare de voir une étoile. Moi, j'aurais dormir aux belles étoiles. Parce que quand on en voit juste une, d'habitude, c'est que c'est pas mal nuageux.
C'est pas
peut-être que c'était la bonne étoile, celle qui nous a guidés
la
dans ce
bonne
lieu.
Étoile.
Ça fait un vieux, une vieille publicité de Sonoco ou Texaco.
Il y a effectivement une auberge en France qui s'appelle l'Auberge de la Belle Étoile, située dans la municipalité de Puylboro, que je ne saurais pas situer sur une carte.
Est-ce qu'on sait combien la nuit en euros, Jean-Sébastien?
Faut que
tarif?
Ça sera pas long.
Il doit y avoir un lien tarif. barbecue pendant ce temps-là.
Ben oui, c'est ça. On s'est posé beaucoup de questions sur ce terme-là. Moi, j'aime bien
les barbecues. Vous vous êtes posé beaucoup de questions.
Oui, mais les gens autour de moi aussi
se sont posés la question. Tout le monde a une explication. Hein?
Oui.
Tout le monde a entendu différentes histoires de la barbe au cul.
Exactement. Puis ça, je lisais justement récemment le Long John Silver d'un auteur à... suédois, norvégien, scandinave, donc je ne sais pas,
c'est
plus l'origine exacte, donc
ouais.
Scandinave, Long John Silver, puis il expliquait justement que son barbecue, il s'appelait barbecue parce que, donc lié à l'idée du barbecue qu'on mettait la brebis sur la broche de la barbe jusqu'au cul.
Mm-hmm.
Donc on embrochait de la barbe jusqu'au cul. Mais en fait, ce ne serait pas ça l'idée, semble-t-il, donc d'après des recherches que certains ont fait, ce serait un mot anglo-américain, bien sûr, mais qui était emprunté à l'hispano-américain, donc qui viendrait de barbacoa, donc qui était l'idée de faire rôtir les viandes en plein air. Donc, on faisait ce type de barbecue-là, donc faire rôtir en plein air. Et ça originerait en fait du terme des Arawaks, donc un groupement amérindien nomade des Antilles, la Floride, qui, au 16e siècle, utilisait l'expression barayakua, qui veut dire dormir et cuire. Donc, et le barayakua, c'était aussi le cadre latté de bois, un cadre latté, donc avec des lattes de travers, sur lequel ils dormaient et sur lequel ils faisaient cuire aussi leur nourriture. Donc, mais c'est certain
fascinant.
Qu'il ne faut pas cuire en même temps qu'on dort, là.
Non.
Faut s'entendre, mais bon, ça gardait peut-être le lit chaud aussi par la suite, donc pouvoir dormir sur un lit un petit peu douillet, d'une certaine façon. Donc, ça viendrait de ces termes-là et qu'on aurait repris par la suite. Peut-être était-ce les pirates qui ont transporté ce terme-là jusqu'à nous. Peut-être était-ce Long John Silver, donc ce pirate qui l'aurait rapporté, mais bon, là, j'extrapole quelque peu.
Vous avez lu trop de livres, là.
Oui, c'est
feu
ça.
Feu de camp? Vous allez nous surprendre avec ça ou...
Ben, ça vient du bivouac, en fait.
Okay.
Donc, le feu de bivouac est devenu le feu de camp. Donc, ce feu en plein air où les gens se réunissent. Puis, c'était le temps, donc, de discuter, de faire les plans aussi, d'échafauder les plans d'attaque. Et c'est devenu, en cours de route, notre familiarisation. Donc, un lien de familiarité aussi avec les autres, de chanter autour du feu de camp, de se réjouir autour de ce feu-là.
La guimauve.
Mais oui.
Et de griller la guimauve.
Mais malheureusement, on n'aura pas le temps ni de profiter de la guimauve, ni de se lever. C'est dommage parce que c'est la partie la plus intéressante de la chronique. Merci beaucoup, beaucoup, Nathalie. Jean-Sébastien, les tarifs?
Oui. Donc, si vous voulez aller loger à l'Auberge de la Belle Étoile en France, les prix vont osciller entre 43 euros et 70 euros. Si vous voulez des chambres plus grandes, donc jusqu'à 5 personnes, ça va très haut. Et en faisant la recherche, il y a également un camping au Maroc qui s'appelle Auberge de la Belle Étoile. Donc, eux, ils ont bien compris le principe.
Un camping s'appelle auberge.
Oui, oui. Donc, on peut avoir des terrains pour planter sa tente et profiter de la belle auberge et des belles étoiles.
Bon,
oui.
Au Maroc. OK. Quelques mesures ensuite. On est en retard, ça n'a pas de bon sens. On parle à Sophie. Alors, Madame l'ornithologue, je vous avais demandé la dernière fois, il y a plusieurs parolines, plusieurs grives, et je vous demandais, quelles sont les différences, quelles sont les particularités, parce qu'il y a des espèces, il y a des familles, et avec Sophie Tessier, on regarde toujours la faune, la flore. Est-ce que vous avez réponse?
Vous m'avez donné un grand devoir,
semble-t-il.
Parce qu'il faut, pour expliquer tout ça, il faut remonter un petit peu dans le temps. Et puis même moi, je suis retournée dans mes vieux cours de biologie de l'époque. Alors, il faut remonter à la systématique. La systématique, c'est tout simplement la science de la classification des êtres vivants.
Okay.
Classer, on fait ça tous les jours, pas seulement avec le vivant, mais tout simplement même à la maison, dans nos tiroirs.
Mm-hmm.
On classe les ustensiles, on classe nos vêtements. Alors, pourquoi classe-t-on? Tout simplement pour s'y retrouver.
Mm-hmm.
Alors, même apparemment qu'il y a des études qui ont été faites sur les nourrissons. Puis les nourrissons, déjà, à leur âge, classent.
Ah.
Classent l'information?
Ils classent, par exemple, des choses autour d'eux. C'est toujours en clé dichotomique. Donc, sous un critère, on divise. Alors, par exemple, les choses qui se mettent dans la bouche, qui sont bonnes à se mettre dans la bouche, puis les choses qui sont pas bonnes à se mettre dans la bouche. Donc déjà, c'est une forme de classement qu'on fait très, très jeune, puis apparemment que c'est un caractère inhérent à nous, les humains. Maintenant, cela étant dit, il y a bien avant notre ère, hein, ça date même, il y a des écrits qui datent de avant Jésus, on classait déjà les animaux, les plantes, et puis c'était surtout pour par intérêt utilitaire. Alors, par exemple, les plantes, on pouvait classer les plantes médicinales des plantes non médicinales. Okay. Donc, le critère était, est-ce que ça peut guérir, oui ou non?
Ouais.
Okay.
Toujours dans l'esprit de la clé dichotomique. Quand moi, j'étais à l'école, à l'université, ça fait longtemps, eh bien, j'ai appris qu'on avait classé le vivant en cinq, on appelait ça cinq règnes. Donc, il y avait les animaux, les végétaux, les champignons, les protistes, hein, ça c'est très, très, très petit, et les bactéries. Là, je n'irai pas nécessairement dans le détail des protistes et des bactéries, mais juste à savoir que c'est des unicellulaires, donc une seule cellule. Les bactéries, il n'y a pas de noyau quand on regarde à l'intérieur. Puis les protistes, ils ont un noyau.
D'accord.
Mais si on se concentre un petit peu plus sur animaux, plantes, champignons, bien, comment on est arrivé à ce classement-là? En fait, on aurait pu classer d'une toute autre façon. C'est totalement arbitraire quand on classe. Si, par exemple, vous prenez Luc et Nathalie, je vous demanderais, bon, comment classer un arbre, une grenouille verte, puis un lièvre brun? Bien là...
On va regarder leurs caractéristiques.
Oui, et c'est ça. Il faut regarder la morphologie, l'anatomie. Alors, comment vous les mettriez ensemble?
Vivant, moi, c'est tout ce que je vois de lié.
Ouais. Tout ce qu'il y a de lié, pour vous, c'est vivant.
Ouais.
Mais on pourrait dire... Hey, il y a un arbre, il y a des feuilles vertes, puis la grenouille verte,
ouais,
elle est verte.
Mais pas le lièvre.
Mais pas le lièvre. Non. Donc, on pourrait dire, hein, c'est arbitraire encore une fois, on pourrait dire que l'arbre et la grenouille, puisqu'il y a du vert dedans, mm-hmm. ça pourrait bien ouais. aller ensemble. Ouais.
Mais le tronc est brun et le lièvre
ah!
est brun.
Mais pas la grenouille.
Eh bien, voilà quelqu'un qui a non, pensé mais... un peu plus loin.
Non, mais est-ce que la grenouille est verte ou brune?
Elle est verte.
Bon,
la grenouille
alors,
verte
ça
est verte.
Pas plus.
Ben, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, ben là, il faut classer, on peut pas classer par la couleur, ça marche pas. Le lièvre, même, il change de couleur, à l'hiver, il devient blanc, ça marche pas.
Le petit anan.
Alors, on a finalement, après plein d'essais, on a classé selon la façon de se nourrir.
Okay.
Donc, les plantes, eux autres, produisent leur propre nourriture. Tous les végétaux, c'est que ce soit fougères, arbres, marguerites, ils fabriquent leur nourriture à partir de la lumière. Ils fabriquent du sucre, hein? En façon simplifiée de parler de la photosynthèse. Les animaux, eux, ils vont ingérer quelque chose autour d'eux. Ils ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture, que ce soit des herbivores, carnivores, omnivores. Il faut qu'ils mangent quelque chose.
Ouais, ouais.
Puis les champignons, eux, qu'est-ce qu'ils font pour manger un champignon? Ça vit, donc ça grandit. Comment ça mange un champignon?
C'est avec la terre, les
bactéries, la moisissure.
Ah ouais, ben en fait, c'est que ça fait un petit produit autour de lui qui décompose la matière.
Mm-hmm.
Et c'est comme ça qu'il va absorber les nutriments. Alors, on peut dire que c'est ça. Les trois grands règnes là, qu'on connaît le plus, c'est ça. Et là, quand on s'en va, disons, dans ces grands groupes-là, les cinq règnes, aujourd'hui, il y en a plus. Puis même, je n'entrerai pas là-dedans, mais aujourd'hui, il y a même d'autres façons de penser avec la génétique et tout ça. Il y a d'autres façons de classer. Mais là, si on rentre dans le règne animal, par
ouais.
exemple, là, on dit, oh boy, mais là, il y en a des animaux.
C'est sûr.
Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, encore une fois, on a regardé les caractéristiques extérieures, mais aussi intérieures, l'anatomie. Les animaux, on a regardé les oiseaux. Ben en fait, on a classé les animaux en oiseaux, mammifères, reptiles. Les oiseaux, quelle est la caractéristique qui fait en sorte qu'un oiseau est un oiseau? Est-ce que vous le savez? Ben, il vole.
Il y a des ailes.
Tu vois, ça serait ailes, pas vraiment une caractéristique parce que la chauve-souris, elle vole, mais,
ouais, mais c'est un mammifère.
C'est un mammifère.
C'est ça, il faut être ovivore.
En fait, il faut avoir du poil
ah.
et donner du lait à son petit pour être un mammifère.
Okay.
Et pour les oiseaux, avoir des plumes. Alors, vous voyez, c'est vraiment des critères comme ça qui ont fait qu'on a défini certains groupes. Et donc, on parle de classe. Quand on dit oiseaux, mammifères, reptiles, poissons, on parle de classe. Donc, on s'en va du plus grand vers le plus petit. Là, dans les oiseaux, on s'est dit, il y en a toutes sortes de formes, de grandeurs, de couleurs. Comment on va faire pour les mettre en groupe, les mettre dans des tiroirs, hein, comme si on rangeait bien nos vêtements? Eh bien, on a regardé, entre autres, la forme des becs, le comportement, l'endroit...
Le régime.
Oui, l'endroit où ils habitaient. Et là, j'arrive finalement à vous répondre, Luc, par rapport à la question d'il y a deux semaines. Vous m'aviez demandé comment ça se fait qu'il y a tant d'oiseaux qui s'appellent parulines... paruline quelque chose, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a des grives, il y en a plein? Bien, c'est qu'on a regroupé ensemble. Donc, les parulines, hein, on a dit, il y a plein d'oiseaux là, qui ont un petit bec un peu pointu. Ils vivent toujours dans les arbres, puis ils mangent juste des insectes. Hein. Là, je simplifie au maximum parce qu'il y a toujours quelques petites exceptions. Bien là, on s'est dit, OK, eux autres, là, on les met tous ensemble, puis on les appelle parulines. Alors ça, c'est la famille. Après ça, on a regardé d'autres oiseaux. On a dit, des gros oiseaux noirs qui sont omnivores, qui chantent mal. On a dit les corvidés, les corbeaux, les corneilles. Alors, on a essayé vraiment de regrouper comme ça. Mais si on s'en va encore dans le plus petit, si on observe, par exemple, les parulines, je prends ce groupe-là parce qu'on en a beaucoup de parulines, hein, un peu plus d'une trentaine au Québec. Et quand on observe bien à l'intérieur d'une famille, on se rend compte qu'il y a encore des différences et qu'on pourrait encore rediviser en petits groupes.
Oui, vous nous parliez de l'habitat, vous nous parliez de régions là, où il y en a qui sont plus en milieu urbain, d'autres en forestier.
Exactement. Ouais. Donc, on a, encore une fois là, regardé différents critères. On s'est dit, encore là, comme je disais au début, on ne peut pas vraiment prendre la couleur parce que la couleur, elle peut changer selon si l'oiseau est jeune ou adulte, selon la saison, mâle, femelle, printemps, automne, ça change. La couleur, ce n'était pas un bon critère. Souvent, on a regardé l'anatomie et puis là, on a fabriqué des plus petits groupes qui s'appellent des genres. Donc, les genres, dans les parulines, il y avait beaucoup d'oiseaux qu'on a regroupés ensemble sous le genre d'Androica. Et puis, Nathalie, ça va peut-être vous dire quelque chose, vous, qui êtes professeure de littérature et de français. Il faut travailler beaucoup en étymologie quand on étudie la biologie, parce que pour comprendre les mots, il faut connaître la racine grecque, latine. Et... maintenant, les espèces sont toujours nommées, hein, depuis Carl von Linné, c'est lui un peu ce naturaliste suédois qui a comme inventé ce système de genre et le plus petit groupe, c'est espèce. Alors, on s'est dit, dans les parulines, ça vit dans les arbres. Donc, on a regroupé ceux qui vivaient dans les arbres, on a dit, ça va être le groupe d'Androica. D'où vient le mot d'Androica? Dendro, ça veut dire arbre. La dendrochronologie, par exemple, c'est l'étude de l'évolution des forêts, des arbres. Oika, ça vient de oikos. Oikos, qui veut dire maison. Mm-hmm. Alors, les oiseaux qui ont pour maison les arbres.
Ah oui, on voit des petites cabanes avec des trous, là.
Oui, un peu. C'est vrai que ce sont tous des oiseaux qui vivent dans les arbres. Mais là, on a regardé, puis... on a trouvé une paruline qui était vraiment spéciale.
Ce sera notre mot de clôture là-dessus.
Ben oui, elle avait des petites moustaches. Oh. Et c'était comme un peu des moustaches qui ressemblaient à d'autres oiseaux. Puis même dans le comportement, c'était différent. C'est la paruline flamboyante. On l'a nommée cétophaga. Céto, ça veut dire des petits poils au bord de la bouche. Cétophaga qui mange avec des petits poils au bord de la bouche. Mais là, avec la venue de la génétique... mais là, on s'est dit, il n'y a plus rien qui, dans le fond, qui fonctionne parce qu'on se rend compte que la parenté entre les espèces, c'est pas nécessairement juste ce qu'on voit à l'extérieur, mais c'est bel et bien par rapport à l'ADN, donc la génétique. Et là, Dendroica, ça n'existe plus.
Ah.
C'est
ah.
plutôt que...
Donc, ce n'est plus une paruline?
En fait, c'est que ça a changé de nom. On s'est dit, ben, les Dendroica, maintenant, on va les mettre dans le genre Cetophaga parce qu'ils sont plus près de cette caractéristique de la paruline flamboyante, plus près génétiquement.
Bon.
Alors, tout ça pour dire que tout change avec, avec l'étude de la classification, la taxinomie. Mais maintenant, vous allez voir que plus ça va aller, plus les noms vont peut-être changer.
Mmh. On reste à l'affût. Merci, Sophie Tessier. C'est demain qu'on lance l'album « Enfants de la Terre » dans le cadre de Présence autochtone. Samiane sera là, l'album en magasin dès le 5 août. On lui parle tout de suite après la pièce-titre de son troisième.
Mon pays n'a pas de frontières, il n'a pas de couleurs. Je suis un enfant de la terre. Sur la terre sacrée, on a marché pieds nus. Au fil des saisons, on a compté les lunes. On a su lire le ciel en guise de boussole. À qui le respect, car l'homme n'est pas seul. On calculait le temps grâce au soleil. Transmettait notre histoire de bouche à oreille. Mon pays n'a pas de drapeau, car on est tous les mêmes derrière nos couleurs de peau. Connectés à la voix du Créateur, guidés par les oiseaux migrateurs. Aborigène à mes ancêtres, j'ai obéi. Lié à la terre, en parfaite harmonie. Porté par elle, je retournerai poussière. Je suis un enfant de la terre. Une mère nourricière, porteuse de vie. Des forêts en guise de pharmacie. Depuis toujours, on se nourrit de la terre, d'air, de la mer, des lacs et des rivières. Des millénaires sans besoin matériel, juste un chemin éclairé par le ciel. Une poussière qui a fait naître l'âme, un souffle de vie porté par la femme. Mon pays, je le porte à l'intérieur de moi, et je n'oublie pas les peuples d'autrefois. On n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. De toute façon, cette terre n'est pas à nous, on est à elle, on forme un tout. Ici, je suis qu'une âme passagère, je suis un enfant de la terre. Chez moi, c'est chez toi. Tout ce qui compte, c'est de savoir où l'on va. Un cycle de vie toujours en mouvement. Des nomades transportés par le vent. Au climat, on a su s'adapter. Dans les pires conditions, la femme a dû enfanter. À la famine, on a survécu. Malheureusement, certains peuples ont disparu. Nos erreurs ont servi d'apprentissage. Autour d'un feu, on écoutait les vieux sages. Une sagesse connectée à l'esprit. Leur voix était utile à la survie. À mon pays, je reste enraciné. Dans ma tête résonne la voix des aînés. Un jour, j'irai rejoindre mon père. Je suis un enfant de la terre.
C'est gênant, on a tous nos verres vides, puis on accueille notre invité avec absolument rien. Désolé, Samiane.
Oui, j'ai un verre.
Ah oui, il y avait, oui, qu'il y avait mais le verre de Nathalie, vous aviez quelque chose?
Je sais pas, je pense que je l'ai volé à quelqu'un. Ou...
Non, il fut apporté.
Oui, voilà. On sait recevoir.
Il fut apporté pour
c'est,
vous.
C'est excellent, c'est excellent. Samiane, pourquoi faire un lancement demain?
Ouais.
Et l'album est juste en boutique le 5 août.
Ben demain, on fait une primeur parce qu'on lance l'album, on fait les chansons, on fait vraiment l'album intégral pour la première fois, mais les gens peuvent acheter quand même l'album demain.
OK.
On a reçu l'album aujourd'hui, c'est vraiment tout frais, tout nouveau. Fait que les gens qui viennent au lancement demain peuvent acheter l'album une semaine avant la sortie.
Okay.
Et aussi, c'est du fait de jouer à Présence Autochtone. Je pense que de faire un concert extérieur gratuit au centre-ville de Montréal, on s'est dit on va prendre cette date-là pour faire le lancement de l'album gratuitement dehors, puis de jumeler l'événement de lancement de l'album avec le festival. Ouais. Fait que c'était pas, il n'y avait pas tant de jours de différence.
Non, ça, c'est sûr.
Fait qu'il y a ces deux raisons-là. Ouais.
Je me disais, on risque de passer à côté de l'effet « Ah, waouh, c'était bon, je vais l'acheter », mais là, vous y avez pensé. Donc
fait que si les gens magnifique. Apprécient le concert demain, ils peuvent acheter l'album.
Émilie Côté a écrit dans un article daté du 21 janvier 2013, dans son prochain album, « À cœur ouvert », c'était le titre.
À l'époque.
Samiane veut parler de son rôle de père de famille. Semble-t-il que vous trouviez ça difficile à écrire. Donc, le titre n'est plus le même et j'ai pas vu beaucoup d'allusions à la paternité.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé entre le 21 janvier 2013 et aujourd'hui, finalement, on vient d'imprimer les copies 30 juillet 2014?
Ouais, mais écoute, je pense que il y a que les fous qui changent pas d'idée. Ouais. Puis, je veux dire, on a certaines mentalités dans la vie à une certaine époque quand on commence à écrire. Puis des fois, on commence à écrire des trucs qui finissent jamais sur un disque. Fait que... Non, la dernière année, évidemment, je reste un père de famille, mais il y a eu le décès de mon père. Il y a eu. Moi, j'ai arrêté la scène, j'ai arrêté tout depuis un an. Puis j'ai décidé de prendre du recul, prendre une pause. Je me suis occupé de mon père avec le cancer. Puis je suis plus devenu un fils qu'un père, finalement. Fait que j'ai écrit un disque dans une mentalité peut-être différente. J'avais besoin de me remettre sur pied. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Donc, il y a eu un cheminement qui était différent de la mentalité que j'avais il y a peut-être quelques années ou il y a déjà un an. Fait que, mais la dernière année a été tellement difficile, tellement, il y a tellement eu d'épreuves, d'étapes, de sacrifices à faire. Fait que l'album est sorti comme ça et tout. La chanson « À cœur ouvert » existe,
ouais.
Mais l'album s'appelle « Enfant de la terre ».
Tout ce que vous venez de mentionner, moi, j'entends ça, puis je me dis, il me semble qu'un an, c'est pas suffisant.
Ça l'est pas suffisant, mais je me sens bien aujourd'hui. Okay. Je me sens... j'ai quand même fait beaucoup d'efforts par rapport à moi. J'ai pris du recul. J'ai arrêté la scène. Ça fait un an. Je reviens sur scène à Montréal pour la première fois depuis un petit bout déjà demain soir. Fait que on a joué à Amos la semaine dernière. Puis pour moi, c'est une façon de revenir tranquillement. Je ne pars pas en tournée. L'album va sortir. On fait seulement deux autres dates après. On va être à Illinois-Nigamo, à Malioténam samedi. On joue à Joliette le 15 août. Et après ça, je me retire encore de la scène pour quelques temps. Fait que non, je continue à prendre le temps de prendre du temps pour moi. Puis je vais revenir quand je vais être prêt.
Que veut dire « res »?
« Res », c'est une expression canadienne... plus anglophone qui parle, qui veut dire res, des réserves, en fait. C'est un terme pour dire ghetto ou. Quand tu dis c'est res,
ouais.
C'est que c'est ghetto. Ça veut vraiment dire c'est.
Mais lié aux réserves amérindiennes.
Oui, relié aux réserves amérindiennes. Voilà. C'est vraiment une expression qui vient des
mais
réserves.
Mais est-ce que c'est comme le hood ou
exact.
C'est. OK, exactement. Donc ça peut être positif. C'est pas nécessairement.
Ben, c'est pas tant positif. Quand tu dis c'est res,
ouais.
Je veux dire, quand tu vois un itinérant autochtone, vraiment débauché, qui a l'image typique, en fait, qui est tellement cliché, c'est res.
Okay.
Quand tu vois une maison dans une réserve qui a pas de draps, qui a pas de rideaux, mais qui a des draps dans les fenêtres, c'est res.
Okay.
Tu sais, il y a tellement d'expressions c'est sortir les clichés, en fait,
ouais.
Des communautés autochtones. Okay. Fait que c'est ça qui...
Vous en avez fait une chanson d'ailleurs, c'est pourquoi je pose la question.
Exact.
J'ai été surpris, l'ancien pasteur en moi, qui a tout perdu ses liens, a été surpris de voir autant de propos tournés vers, pas juste le Créateur, mais le Dieu de la Bible.
Ouais.
Qui, j'avais l'impression, dans les premiers albums, le Dieu de la Bible ou la Bible était pas toujours bien perçu.
Non, en fait, Dieu reste Dieu, mais la Bible,
On parle même de Jean 3,16, là. On est vraiment dans le détail.
Oh, ouais, moi, je lis la Bible. J'étudie la Bible à tous les matins. Mm-hmm. À l'aube, le matin, je prends mon temps pour étudier la Bible. J'aime ces messages-là. J'aime ce qui est écrit. Puis il faut faire... Moi, sur l'album, j'en parle beaucoup, mais il faut faire la différence entre la religion et la spiritualité aussi. Ouais, ouais. Ma spiritualité n'est pas religieuse. La Bible n'enseigne pas la religion. Il n'y a rien qui... Quand moi, j'étudie la Bible, il n'y a absolument rien qui va me dire... d'embarquer dans une religion quoi que ce soit. Ça ne marche pas ensemble pour moi. Puis non, je suis quelqu'un de très spirituel. Je crois en Dieu, je crois au Créateur, je crois à l'histoire de la Bible. Je trouve qu'il y a tellement de belles valeurs là-dedans. Ouais. Puis je trouve que la spiritualité chrétienne est la même que celle des Autochtones autrefois. En fait. C'est le même Créateur, c'est les mêmes valeurs, c'est la même philosophie. Mais il n'y a rien de religieux là-dedans. Okay. Dieu n'a pas fait de mal aux Premières Nations. La religion a fait tellement de ravages chez les Autochtones. Fait que pour moi, il faut faire la différence entre les deux.
Vous avez déjà dit ici et ailleurs qu'il y a des enfants qui se nomment Samian à cause de vous. Vous faites partie d'un livre en secondaire 4. C'est quand même quelque chose. Moi, je ne saurais pas quoi faire avec ça. Moi, s'il y avait des livres qui feraient l'éloge de Luc Fortin puis qui diraient que Luc Fortin est, puis à cause de ça... il y a des changements sociaux ou des changements individuels, j'avoue, je ne saurais pas quoi faire avec ça.
Je ne sais pas plus quoi faire, mais pour moi, mais c'est un honneur, je veux dire. C'est là que je réalise aussi la responsabilité, mm-hmm. tu sais, de ce...
Ben, c'est ça qui me donnerait le vertige.
Ouais.
Ouais.
Mais ça ne change rien pour moi dans le sens que j'ai le même message, j'ai le même... Je change pas pour autant. Pour moi, c'est spécial. Tu sais, il y a des livres de français, il y a aussi dans les livres d'histoire. Tu sais, il y a ma photo, il y a des textes, puis les jeunes se font poser la question pourquoi Samian fait du rap, de quelle communauté vient Samian. C'est quand même assez impressionnant. Tu sais, mais écoute, la vie continue, puis c'est un honneur. C'est vraiment. Je remercie la vie pour ces beaux cadeaux-là. Ouais.
Vous êtes autochtone, mais pas que ça. Comment trouver l'équilibre entre le rôle que l'on vous attribue et l'ensemble que vous êtes? Puis là, c'est une grosse question, puis il vous reste 45 secondes. C'est pas drôle.
Bien, ça dépasse la musique. Je pense que je me suis présenté en tant qu'MC, en tant que rappeur, mais ça va au-delà de la musique. Et je pense que je l'accepte et je pense que je le fais bien. C'est un engagement. Je pense que j'ai choisi d'être un artiste engagé. Je pense que quand je monte sur scène avec un micro, avec mes musiciens, mais c'est au-delà de la musique. Et ça vient vraiment... Je pense que ça vient tellement du cœur qu'on arrive à rejoindre le cœur des gens. Puis je sais pas, un des seuls MC au monde à avoir rappé devant la reine d'Angleterre. Puis pour moi, c'est toujours une façon de dire que c'est au-delà du milieu artistique.
Sam, le fait que je vous ai pas parlé de musique sauf avant d'entrer en onde, j'imagine que je suis pas le seul, ça vous dérange pas ça?
C'est comme ça à chaque fois et c'est ce que je viens de dire. Ça va au-delà de la musique. On parle jamais de
musique. Ça fait votre affaire. Ben, c'est ça, mais vous n'êtes pas qu'autochtone.
Mais j'ai sorti un album, il sort le 5 août. Yes. Le lancement est demain, 31 juillet.
Tout à fait.
Place des festivals. Voilà.
Enfant de la terre. Merci beaucoup, Nathalie Larouche. On se retrouve la semaine prochaine.
Eh oui.
Sophie, vous, c'est dans deux semaines?
Oui, M. Fortin. L'horaire?
OK, Jean-Sébastien sera là demain.
Au rendez-vous dans deux semaines.
Puis Samian aussi sera là demain, lui, à l'extérieur sur la place des festivals. Sophie Stanquet s'en vient avec Cœur à cœur. On sera là pour une petite dernière demain, jeudi. Ensuite, c'est Clotilde qui va terminer la semaine. Bonne fin de journée, tout le monde.
Merci.
À demain. Merci.